Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence, il est 19h, on va commencer, excusez-moi.
Miam dame.
Je sais qu'on commence avec une heure, une minute trente de retard, mais ce n'est pas une raison pour parler beaucoup.
Miam dame.
19h. Une, 30 secondes, la Minute Info, Simon Guillain. Bonsoir à tous.
Bonsoir chère Christine et bonsoir à tous chers téléspectateurs. Un homme a été interpellé après l'agression antisémite survenue samedi à Paris. Il est soupçonné d'avoir violemment frappé et traité de sale juif un sexagénaire à la sortie d'une synagogue. La victime a reconnu son agresseur sur des photos. L'État de New York déploie des militaires dans le métro pour lutter contre la criminalité. 1000 soldats sont mobilisés, annonce le gouverneur démocrate de l'État de New York. Cette mesure fait suite à une série d'incidents, dont une fusillade mi-février dans une station du Bronx qui avait fait un mort et 5 blessés. Et puis Simone Veil, Joséphine Baker et Marie Curie figureront désormais sur les pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros. La mairie de Paris a en effet dévoilé ces nouvelles pièces qui seront progressivement mises en circulation d'ici cet été. C'est la première fois depuis le passage à l'euro que la France change l'apparence de ses pièces jaunes, chère Christine.
Merci Simon Guillain pour ces informations ce soir. Belle coupe de cheveux. Au sommaire ce soir, alors que le média factuel nous rappelle aujourd'hui que l'État verse 110 millions d'euros par an d'aide à la presse écrite, on s'arrêtera sur l'acte européen sur la liberté des médias. Personne n'en parle. Mais ce texte se dessine en ce moment au niveau européen. Il sera voté mardi prochain à Strasbourg. En France, les États généraux de l'information, eux aussi, sont en cours. Quelles sont les réelles menaces de la liberté de la presse aujourd'hui ? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Alors que François Hollande a été reçu à 18h à l'Élysée et que Nicolas Sarkozy vient d'arriver, l'objectif, parler de la situation de la France et de la guerre en Ukraine, on se demandera où on en est, où est la France, une semaine avant un vote au Parlement et à la veille d'une réunion avec les oppositions. Nous reviendrons sur les propos du chef de l'État et il ne faut pas être lâche. Analyse Guillaume Bigot. Changement de sponsor pour la Ligue de première division de football en France. McDonald's aurait croqué l'ancien partenaire Uber Eats et deviendrait, on le saura le 21 mars, la marque étalon apparaissant dans toutes les rencontres du championnat. À l'heure des JO, cela pose-t-il une question sur l'influence des annonceurs, non pas dans la logique purement sportive, mais sur l'influence de leur image qui concerne un public où les jeunes ont une grande part, le regard de Marc Menon. Que se passe-t-il à l'éducation nationale ? Un professeur menacé de mort à cause du port du voile d'une élève, un directeur frappé dans son établissement, des images dignes des émeutes de l'été dernier à Cachan dans le Val-de-Marne avec des slogans anti-France, des slogans de haine contre la police, contre l'État, des événements pour le moins effrayants. Pourquoi toujours cette violence qui s'invite dans nos établissements scolaires ? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis Mathilde Panot, députée LFI à l'Assemblée nationale, ne sait pas où se situe la Palestine par rapport au Jourdain qu'elle défend. La Palestine qu'elle défend, apparemment, donc selon une interview sur Public Sénat. Je ne comprends pas votre question, a-t-elle répondu. En quoi est-ce important? Pourquoi des téléspectateurs ont été choqués? L'édito de Mathieu Bock-Côté ce soir. C'est parti. Pour une heure avec nos mousquetaires, Guillaume Bigot est avec nous ce soir. Guillaume Bigot est avec nous ce soir. Vous savez, avant de commencer, écoutons Mathilde Panot.
Elle est timide.
Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain ? Du fleuve Jourdain.
Pourquoi cette question ?
Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir.
Nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU.
Oui. Mais physiquement, géographiquement, vous le situez où, cet État de Palestine ?
Je ne comprends pas votre question. Je m'appuie exactement sur les résolutions de l'ONU.
Voilà. Géographiquement, c'est à l'ouest du Jourdain ? Du fleuve Jourdain ?
Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire. Donc, non, en fait, je ne vais pas aller vers des choses
Où vous situez l'état de Palestine
mais sur le droit international, point. Sur le droit international, sur ce qui a été dit sur le droit international.
On en parle dans un instant avec vous, Mathieu Bock-Côté. D'abord, connaissez-vous l'European Media Freedom Act? C'est l'acte européen sur la liberté des médias. Personne n'en parle. Ça se passe au niveau européen. Vous connaissiez, vous?
J'en ai entendu parler.
D'accord. Ça se passe au niveau européen.
Je suis obsédé par eux.
Oui, mais je sais que vous surveillez beaucoup l'Europe, apparemment. Et un vote aura lieu mardi. Alors qu'ici en France, Mathieu Bock-Côté, l'actualité au niveau de la presse et la commission d'enquête, notamment contre CNews, ou encore à la charge de RSF, notamment contre CNews, on se posera une question essentielle. Où en est la liberté de la presse en France et en Europe? Est-elle aussi garantie qu'on l'affirme?
Oh, je vous donne une réponse claire, certainement pas. Certainement pas. Et il faut se méfier de tous ceux qui prétendent défendre de manière institutionnelle aujourd'hui le pluralisme, l'indépendance des médias, leur liberté éditoriale, parce que lorsqu'ils disent cela, normalement, ils disent le contraire des mots qu'ils utilisent. On l'a vu dans la séquence RSF. Ceux qui prétendent défendre le pluralisme aujourd'hui sont ceux qui sont en guerre contre le pluralisme, qui cherchent à détruire les manifestations concrètes et réelles du pluralisme. Mais il faut aller effectivement au-delà de RSF. Bien qu'on retrouvera la trace de RSF au fil de la présente démonstration, ils sont surprenants. La manie du fichage, j'y reviens. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point un dispositif se met en place au niveau européen, donc au niveau des nations, qui ont pour fonction aujourd'hui de reproduire, en fait, de manière administrative et juridique, les exigences et les diktats de Bruxelles. Un dispositif se met en place pour encadrer et favoriser l'indépendance et la liberté de presse. On verra ce dont il est question dans quelques instants. Alors, ça remonte à septembre 2022. En septembre 2022, l'idée, donc cet acte dont vous parlez, qui a pour vocation, dit-on, de protéger les journalistes, d'assurer l'indépendance des médias, s'assurer qu'aucun média public ne devrait devenir un organe de propagande. Ça part mal pour la France, ça part mal pour France Inter, si je peux me permettre en tout respect pour nos collègues. Donc, aucun média public ne doit devenir un média de propagande, entre autres prescriptions, défendre la liberté des journalistes, défendre la liberté des rédactions, pour s'assurer d'avoir un pluralisme véritable. Or, assurer notamment, j'y reviens tout de suite, le financement durable des médias publics. Pourquoi? Parce qu'ils sont présentés tout au fil de ce texte comme les seuls garants du pluralisme véritable et de la production d'une information fiable et vérifiée. Et nous savons en France, avec raison, que si on n'avait que France Inter et France Culture pour assurer le pluralisme des médias, nous serions dans la société la plus pluraliste du monde. Si on se fiait seulement sur France Inter, on n'aurait pas besoin de tous les autres médias parce que le pluralisme serait assuré et vérifié. Oui, nous le savons. Cela dit, le débat évolue. Et en décembre 2023, il y a un accord entre le Parlement européen et la Commission européenne pour produire un texte, donc celui dont vous avez parlé, qui sera la semaine prochaine au vote.
Mardi, à Strasbourg, il sera voté.
Or, qu'est-ce qu'on trouve à travers tout ça? Il s'agit donc d'assurer la défense du pluralisme, de s'assurer que les médias s'inscrivent dans une défense maximale du pluralisme et de la liberté éditoriale. Mais dans un esprit plus large, je cite le texte, dans le cadre du plan d'action de la Commission pour la démocratie européenne. Donc c'est important, les médias sont là pour défendre la démocratie. Mais là, je vais citer juste un peu plus loin. Une feuille de route visant à lutter contre la montée des extrémismes et le risque d'ingérence étrangère dans les scrutins électoraux. Sachant que nos amis de Bruxelles et d'autres ont tendance à assimiler les forces dites populistes, le RN, Reconquête, mais aussi LFI, on les présente comme des forces extrémistes, on doit simplement comprendre que les médias sont invités, ici, à faire un travail de propagande actif contre les forces que le système, que le régime nomme extrémistes. Donc, qu'on se comprenne bien, défendre l'indépendance et la liberté de presse, ça, c'est le principe de référence. Concrètement, mobilisation de ces médias contre des forces politiques légales, autorisées, qui reçoivent l'appui de millions d'Européens, mais puisqu'elles sont étiquetées extrémistes par le régime, les médias, au nom du pluralisme et de l'indépendance éditoriale, doivent lutter contre elles.
Et rappelons bien, au niveau européen.
J'y arrive dans un instant parce que c'est absolument fondamental de le rappeler. Parmi des propositions qu'on trouve dans cet acte européen, il y a notamment l'idée qu'il faudrait centraliser l'équivalent de l'ARCOM dans chaque pays au niveau européen pour créer un espace public européen intégré. Donc, c'est intéressant. Les espaces publics nationaux sont jugés un peu désuets. Et c'est au niveau européen, encore une fois, qu'on doit encadrer la liberté de presse. Vous noterez. Donc, les nations, encore une fois, sont décrétées espaces secondaires parce que donc, l'Europe, encore une fois, nous dit voilà à quel niveau les questions importantes doivent se poser, doivent se régler. Et même s'il y a une diversité de culture médiatique dans les différents pays européens, même s'il y a une diversité de culture nationale, une diversité de culture du débat, l'Europe veut centraliser au niveau, donc de Bruxelles, l'équivalent de l'ARCOM. Donc, c'est une perte de souveraineté médiatique pour la France. C'est quand même majeur. Et on en parle très peu, vous avez raison de le dire. On s'inquiète notamment des différentes manières dont les États aujourd'hui, puis ça, je donne des exemples qui nous sont proposés par l'Europe et les européistes, des exemples de la perte de la liberté ou de l'indépendance éditoriale aujourd'hui en France. Pas en France, pardonnez-moi, en Europe. Par exemple, lorsque certains médias sont soutenus par la publicité, et plus particulièrement par la publicité gouvernementale. Eh bien, imaginons que le gouvernement ou les différentes instances gouvernementales, il n'en manque pas aujourd'hui, hein, puisque le sous-département de trouve les moyens d'avoir de l'argent donné à des médias d'une manière ou l'autre. C'est le mode de contrôle, hein, faut pas se tromper. Quand il y a la publicité gouvernementale, ça permet à un média de vivre, ou quelquefois, si on ne lui en donne pas, ça l'asphyxie. Eh bien, est-ce que l'argent donné sur le mode publicitaire favorise certains médias ou d'autres, l'Europe nous dit sans inquiéter. Gardons ça à l'esprit. On s'inquiète aussi, et là, ça parle pas du tout de la France, je vous rassure. On s'inquiète du pouvoir des États en matière d'autorisation de diffusion qui peut menacer l'indépendance des médias. Par exemple, on s'inquiète en Pologne, c'était un projet de loi qui visait à interdire la propriété non européenne des médias. Dont acte. Mais il y a aussi, je cite, en Hongrie, le Conseil des médias avait refusé de prolonger la licence de la radio indépendante Klub Rádió, la forçant à quitter les ondes. Vous imaginez un pays européen démocratique qui, parce qu'il jugerait une ligne éditoriale contraire à l'idéologie dominante, on la forcerait à quitter les ondes. C'est inimaginable en France.
C'est inimaginable.
Je n'imagine pas ça. Si ça se passait ailleurs, je suis persuadé qu'on le dénoncerait. Par exemple, en Hongrie, on le dénoncerait. Mais si ça se passait en France, je suis persuadé que tout le monde se mobiliserait pour dénoncer l'idée de chasser des ondes, une télé ou une radio qui est jugée par certains à l'écart de l'orthodoxie idéologique. Donc, c'est le genre de choses dont on s'inquiète. Mais comme vous savez, je dis souvent de manière un peu moqueuse, on s'inquiète de la montée des empires autoritaires partout dans le monde, avec raison, mais on ne se demande pas si nos propres démocraties deviennent beaucoup plus autoritaires. Quoi qu'il en soit, parmi les choses qui sont proposées, et là, je l'annonce à la manière d'une espèce de teaser, comme on dit en anglais, on approche de nos amis de RSF. Donc, quelles sont les solutions proposées par cet acte? Assurer le financement stable et durable des médias publics. Ce sont les seuls gardiens du pluralisme et de l'indépendance des médias. Gardons ça à l'esprit, parce qu'il se peut que les gens qui écrivent ça ne vivent pas dans le même monde que nous. C'est possible aussi. Encadrer la concentration des médias pour éviter que trop de médias se retrouvent dans les mains d'une personne ou d'une autre, ce qui pourrait déstabiliser la vie médiatique. Je l'ai dit, remplacer toutes les ARCOM du monde par une ARCOM européenne. Et là, il y a une question importante qui se pose aujourd'hui. Dans la lutte, vous savez, contre la désinformation, les fake news, il y a les réseaux sociaux. Beaucoup d'informations passent aujourd'hui par les réseaux sociaux. Donc, comment distinguer un média fiable, un média valable, qui ne sera pas perpétuellement critiqué, un média dont on reconnaît la légitimité sur les réseaux sociaux, et un autre qu'il faudrait encadrer beaucoup plus dans l'idée du contrôle des plateformes? Eh bien, pour cela, cette législation européenne veut se fonder sur, je cite, un indice qui est le Journalism Trust Initiative, qui est, c'est une norme pour fonder la qualité, on pourrait dire la crédibilité au nom des médias, et qui a produit cette norme qui permet de ficher les médias qui sont recommandables ou non. Mais nos amis de RSF ont produit un indice.
Parlez pour vous. Hein.
Moi, j'ai que des amis sur Terre. Oui. Moi, j'aime tout le monde. Je suis l'amour
et c'est au niveau européen, ça?
Ah oui, c'est pris en charge. Donc, la norme du RSF est prise en charge dans l'idée de ficher de quelle manière quels sont les médias crédibles et ceux qui ne le sont pas. Donc, RSF a gagné, à certains égards, le pouvoir de ficher les médias. Donc, j'espère bien qu'on comprend qu'à travers tout ça, l'appel au pluralisme, dans les faits, c'est un appel à l'encadrement médiatique généralisé.
Très intéressant. Deux questions. Parlant de RSF, leur directeur général Christophe Deloire dirige en ce moment les états généraux de l'information en France, puisqu'on a parlé là au niveau européen. Je rappelle que lorsque j'étais au CSA, on appliquait les directives. C'était ça, on applique les directives européennes et on oblige les médias français à appliquer les directives européennes. Donc c'est intéressant de partir de l'Europe pour venir à ce qui se passe en France. À quoi ça doit-on s'attendre par rapport à ces états généraux?
Enfin, je me ferai plus bref dans la deuxième partie de l'éditorial, mais parce que vous allez comprendre l'idée. Les états généraux de l'information se présentent officiellement. Le motif, c'est comment, dans un monde en mutation technologique pour le monde des médias, avec un effondrement des revenus publicitaires notamment, comment assurer la survie d'un pluralisme médiatique. Donc ça, cette raison-là, théoriquement, tout le monde pourrait se mettre d'accord là-dessus. Mais si on prend la peine de regarder ce qui se trouve dans la démarche de RSF, le contexte, quand Emmanuel Macron a pris la peine de dire, le président de la République a pris la peine de dire que les états généraux de l'information, ce n'était pas sans lien avec la nomination inquiétante de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Donc il y a un lien entre les deux dans leur esprit, pas dans le lien, dans leur esprit. Eh bien, on peut comprendre dans ces états généraux une volonté aussi d'encadrer de manière quelque peu autoritaire, il faut bien le dire, le pluralisme désiré par l'État. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de penser le pluralisme. Soit il jaillit de la société, de la diversité des courants, de la diversité des mouvements, de la diversité des journaux, où l'État décide de fixer le pluralisme qu'il entend, le pluralisme autorisé, avec ses propres étiquettes, gauche, droite, centre, extrême-gauche, extrême-droite, populisme, pas populisme. Bon. Donc, il y a les catégories qui sont fixées de manière autoritaire, où c'est un pluralisme plus spontané. Et je note que la démarche, pour l'instant, des États généraux nous conduit à une organisation jacobine, en quelque sorte, du pluralisme désiré par l'idéologie dominante. Et je fais le lien, vous me le pardonnerez, avec le financement public des médias. Donc, il est significatif, les aides publiques à la presse. Moi, je ne suis pas contre ça. Je pense que c'est nécessaire de soutenir d'une manière ou de l'autre les titres de presse.
C'est écrit, on rappelle bien. C'est pas...
Mais il y a beaucoup d'argent, ça l'a dit, là-dedans. Et je note que...
110 millions par an.
Ah, c'est quand même un peu de notre argent. Or, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que certains titres sont plus favorisés que d'autres. Et quels sont deux titres très favorisés, mais le plus favorisé, toute proportion gardée, c'est l'Humanité. L'Humanité, ce titre qui, historiquement, nous le savons, a soutenu le stalinisme, a soutenu le communisme totalitaire, donc ce titre admirable du point de vue du pluralisme, eh bien, il est tout à fait soutenu. Ce qu'on doit comprendre avant ça, c'est qu'un journal communiste, donc avec un passé totalitaire, s'il ne se fiait qu'à ses lecteurs, serait mort aujourd'hui. Il est tenu en vie artificiellement par les fonds publics, donc globalement vos impôts et les miens, et ceux de Charlotte, ceux de Marc, ceux de Guillaume. Nous finançons le maintien d'une ligne éditoriale communiste, militante, dans l'espace public. C'est intéressant de savoir que ce courant-là n'existe aujourd'hui qu'en sur le mode Dracula, c'est-à-dire il prend le sang qu'il n'est pas capable de générer par lui-même. Donc gardons ça à l'esprit sur le mode, il y a un deux poids deux mesures dans le financement de la presse qui est assez inquiétant et qui n'est pas sans lien avec le pluralisme qu'il prétend défendre.
Dernière question en 10 secondes, on a beaucoup de sujets, pardon Mathieu, mais finalement quelles sont les principales menaces réelles sur la liberté de la presse aujourd'hui?
Alors, très rapidement, je l'ai dit, l'encadrement administratif et autoritaire du pluralisme, c'est un vrai danger. Ensuite, la volonté de filtrer les informations sur le mode « qu'est-ce qui est fake news et qu'est-ce qui ne l'est pas ». Dans les faits, derrière la lutte contre les fake news, il y a la volonté de dire quelles informations peuvent passer dans l'espace public et lesquelles ne doivent pas passer dans l'espace public. Je raconte en 3 secondes un événement qui s'est passé au Canada pendant la pandémie. Il y avait des facteurs, mais là, on ne parle même pas des médias informatiques. Il y a des facteurs qui disent on ne veut pas passer tel journal dans les maisons, c'est le Epoch Times, parce qu'il y a des fake news là-dedans. Donc, ils se donnaient le pouvoir de dire quel journal on passe ou non. C'est important quand même. Ensuite, vous savez, on en a parlé il y a quelques temps, l'idée sur le service public de donner des primes pour ceux qui veulent parler avec enthousiasme de l'Europe et de la diversité. Certains croiraient que c'est une information orientée. Et évidemment, il y a la tentation des commissions McCarthy, nouveau genre, de faire un procès directement pour certaines chaînes privées que l'on voudrait fermer parce que l'idéologie dominante juge qu'elles sont à l'extérieur du créneau médiatique autorisé. Peut-être est-ce aussi une menace.
Merci Mathieu pour cette analyse très pédagogique depuis l'Europe jusqu'à... En passant par ce petit acte européen sur la liberté des médias dont personne ne parle. Chut.
Mais peut-être que pendant le Covid, il y a eu la tentation d'avoir un site pour trier les bonnes et les mauvaises informations. Chut.
Il n'y avait pas besoin de l'appliquer.
On va passer à votre sujet. Là, tout le monde en parle. François Hollande sort à l'instant, enfin il est sorti il y a à peu près 15 minutes, de l'Élysée où il a rencontré Emmanuel Macron pour parler de la situation de la France et de cette volonté du chef de l'État d'aller un peu plus loin avec l'Ukraine. Écoutez François Hollande.
Okay. Il est très important, et c'est ce que j'ai dit à Emmanuel Macron, qu'il y ait le consensus le plus large pour le soutien à l'Ukraine. C'est-à-dire sur tout ce qui peut être l'aide matérielle, l'aide militaire, au niveau de la France et au niveau européen. C'est ça qui peut faire réfléchir Vladimir Poutine.
L'actualité est donc chargée sur la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se concertent avec leurs homologues ukrainiens. François Hollande, je le disais, et Nicolas Sarkozy, en ce moment, est reçu par Emmanuel Macron et reçoit donc demain les chefs de parti en format Saint-Denis. Mmh. On a besoin de votre décryptage, Guillaume Bigot, mais d'abord, revenons sur les propos tenus hier à Prague par Emmanuel Macron qui ont surpris, voire choqué. On écoute. Okay.
Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire.
Le président joignait quasiment des alliés donc à se reprendre face à Vladimir Poutine. Inarrêtable, votre regard.
C'est un peu la logorée d'Emmanuel Macron, je pense, qui est inarrêtable. Parce que nous sommes à un moment de notre Europe. En fait, c'est très intéressant cette expression, parce que c'est peut-être un moment de notre histoire. Mais là, un moment de notre... L'Europe, c'est comme une expression géographique. Et c'est justement, d'ailleurs, pour sortir de l'histoire. Mais passons. Pourquoi il y a quelque chose de... Il faut expliquer pourquoi c'est curieux. Moi, je pense que ça traduit de la part du président de la République à la fois une frustration et une vexation. D'abord, il faut rembobiner et se rappeler de la séquence, si j'ose dire, la réunion du 27 février, format des 27 États membres de l'Union européenne à l'Élysée. À ce moment-là, qu'est-ce que propose la France, et donc le président de la République, à ses partenaires ? L'envisage, il étudie la possibilité de déployer des troupes au sol, notamment des troupes européennes, le long de la frontière avec la Biélorussie, mais en Ukraine, sur le territoire ukrainien. Comme disent les anglo-saxons, c'est « boots on the ground ». Là, pour le coup, on est sur le terrain. Et pourquoi ? Pour soulager les... Mais sans combattre, pour soulager les troupes ukrainiennes, pour que les troupes ukrainiennes puissent combattre vers le sud, là où il y a les combats. C'est déjà une proposition assez incroyable, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une provocation de la part des Russes, de la part des Ukrainiens, et ça déclenche un engrenage. Évidemment, les Européens disent non. Non, c'est non. Ensuite, Emmanuel Macron et les autres, certains autres, insistent pour que l'Allemagne livre ses missiles à longue portée, les missiles Taurus. Et là, l'Allemagne dit « nein ». Ensuite, c'est la proposition du président tchèque, je crois, 800 000 obus. On a trouvé 800 000 obus sur le marché international, peu importe où, et on va les livrer tout de suite à l'Ukraine. Et là, les 27 disent « non, on ne fait pas ça avec l'argent de l'Europe ». Donc on peut comprendre la frustration d'Emmanuel Macron, mais un président, quand même, ne devrait pas dire ça. Il ne devrait pas dire ça, parce que qu'est-ce qu'il laisse entendre ? Que les alliés sont lâches. D'abord, première chose, l'esprit de défaite rôde, dit le président de la République, mais pas chez nous. Ah bon, pas chez nous, mais alors chez qui ? Évidemment, les alliés se sont sentis insultés. Ils l'ont mal pris, mais c'est normal. Mais rendez-vous compte, l'Allemagne, qui a donné 17 milliards à l'Ukraine, comment peut-elle entendre que la France lui fasse la leçon et la traite de lâche alors qu'elle n'a donné que 3 milliards ? Deuxièmement, ça étale les divisions des alliés. Et ça fait évidemment le jeu de Poutine. Ça alimente la rhétorique de Trump et des isolationnistes aux États-Unis qui ne veulent plus s'engager. Bien sûr, on le comprend. Et ça oblige en plus, justement, les alliés et la France elle-même à préciser leurs limites.
On va marquer une pause pour continuer sur ce sujet qui devient vraiment au cœur de l'actualité. Cette guerre en Ukraine, avec la Russie, et qui revient vraiment dans notre actualité, peut-être même politique, peut-être même électorale. On marque une pause. On retourne sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, vous allez nous parler de Mathilde Panot et de la Palestine, à l'est, au nord, au sud, ou bien au sud-ouest du Jourdain. Vous nous direz, puisqu'elle n'a pas su répondre sur Public Sénat, on a essayé d'aller plus loin pour comprendre ce que cela signifie, surtout. C'est ce qui nous intéresse. On parlera avec vous du football. On parlera avec vous, Charlotte, de l'éducation nationale et de tout ce qui se passe en ce moment. Revenons avec l'information du jour. Nicolas Sarkozy est reçu en ce moment même à l'Élysée par Emmanuel Macron. On a repris les propos d'Emmanuel Macron sur le fait que les alliés seraient lâches, entre guillemets. Et vous nous disiez que c'était grave pour trois raisons.
Ouais. Je voulais reprendre assez rapidement. C'est-à-dire que c'est insultant pour les alliés, Deuxièmement, ça étale les divisions au profit de la Russie et des alliés. Et la troisième raison, c'est que ça oblige non seulement les alliés, mais aussi la France à dire jusqu'où ils ne vont pas aller. Et c'est la formule du cardinal de Retz qu'adorait citer François Mitterrand, c'est-à-dire qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Là, Emmanuel Macron est sorti de l'ambiguïté à ses dépens, aux dépens de la France, aux dépens des alliés, aux dépens de l'Ukraine. Qu'est-ce que ce serait l'ambiguïté stratégique? Ça aurait consisté à ne rien dire pour laisser Poutine craindre des choses qui sont cachées. Deuxièmement, ça aurait consisté à faire des choses sans le dire. C'est ça la véritable ambiguïté stratégique. C'est un fort qui fait ça. Là, c'est un acteur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit ce qu'il ne peut pas faire. Et en plus, après, il est obligé de rétro-pédaler. Donc il étale sa vulnérabilité, sa faiblesse. C'est l'inverse de l'esprit stratégique. Et pire encore, il oblige les autres, pour le contester, ce qu'ont fait les Américains, ce qu'ont fait les Allemands, etc., à admettre qu'ils ne feront jamais ça. Donc vous voyez, donc, au total, à l'arrivée, voilà, on a divisé, on a affaibli pour rien, sinon pour faire l'intéressant, peut-être, je ne sais pas.
Je vous taquine un peu, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas peut-être une stratégie cachée d'Emmanuel Macron qu'on ne comprend pas aujourd'hui et qu'on comprendra demain,
je sais pas. Moi, je crois comprendre, c'est mon interprétation toute personnelle pour le coup, qu'Emmanuel Macron, il y a une sorte de transformisme diplomatique ou de transformisme géopolitique chez ce personnage, mais parce qu'on est passé, on est parti quand même à l'origine d'un Emmanuel Macron, pas chef de file des pacifistes, mais enfin, quand même, il ne voulait pas humilier la Russie, un Emmanuel Macron qui est le chef de file des va-t-en-guerre et qui veut aller jusqu'à déployer des troupes au sol. Donc pourquoi se transformisme? Parce que je pense que le personnage se cherche un rôle. Ce qu'il veut faire, c'est faire irruption dans l'histoire, ça c'est sûr. Et comme il n'y arrive pas, il cherche par tous les moyens à trouver un décor, une scène, une posture, une tirade qu'il mettra en valeur.
Nous ne sommes pas aux portes de la guerre? Selon vous, Emmanuel Macron n'est-il pas lucide lorsqu'il dit, par exemple, nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche? On n'est pas au bord de la guerre. Alors, certains disent qu'on l'est.
Bon, soyons prudents. Peut-être que le président de la République a des informations finalement qu'on n'a pas. On peut toujours être prudent, mais je pense que cette posture de vouloir jouer finalement au Churchill de l'Europe, ça fait penser vraiment au film Podium. Enfin, certains se prenaient pour Johnny Hallyday, etc. Voilà, y a quelque chose là-dedans qui est factice, mais ça ne serait pas grave d'une certaine façon. Sauf que là, c'est aussi dangereux. Pourquoi c'est factice? C'est une posture factice parce que surtout, elle est complètement, me semble-t-il, anachronique. Vous voyez, on reproche à Poutine, à juste titre, de vouloir dénazifier l'Ukraine. Enfin, c'est complètement hors sujet. Bon, pourquoi nous, on tombe là-dedans? Pourquoi on veut absolument que Poutine soit Hitler? Moi, je pense que Poutine, il ressemble plus à Staline, d'ailleurs. Et comparaison pour comparaison, Churchill, je rappelle qu'il s'est allié à Staline pour se débarrasser d'Hitler. Donc, et que Poutine, accessoirement, nous a aidé à nous débarrasser de Daesh. Enfin, fermons la parenthèse. Donc, moi, je pense qu'on se trompe de guerre. On a souvent, d'ailleurs, cette tendance en France d'avoir une guerre de retard. Hein, c'est-à-dire qu'en 14-18, on était sur la guerre de 70. Moralité de l'histoire, on s'est planté. En 39-40, on était sur la guerre de 14-18. Donc, c'est la défensive. Moralité, c'est fini en tragédie. Et en 2024, on veut rejouer... Munich, 39-45, etc. Et on va évidemment se planter parce que c'est un anachronisme total. Si l'histoire nous sert à quelque chose, je pense que ça ressemble davantage à la guerre civile américaine, toute proportion gardée, ou ça ressemble plutôt, je dirais, à l'explosion de l'ex-Yougoslavie, si l'Ukraine, c'est l'ex-Yougoslavie. Ça ressemble plus à ça qu'à autre chose. En tout cas, c'est une posture qui est très dangereuse, aussi, à mon avis, parce que c'est une posture idéologique. L'idéologie, ça nous sort de la réalité. L'idéologie, ici, c'est quoi? C'est l'européisme. C'est-à-dire qu'on nous dit que nous avons des intérêts vitaux en Ukraine. Pourquoi? Parce que par idéologie, l'intérêt vital stratégique de la France s'étend d'abord à toute l'Europe, ce que je conteste, et deuxièmement, en plus, l'Ukraine ayant fait acte d'adhésion pour rentrer dans l'Europe, ça y est, maintenant, la guerre de l'Ukraine, c'est notre guerre, puisque c'est notre Europe. On est dans une dérive idéologique complète. Et en fait, là où ça devient extrêmement dangereux, c'est qu'en plus, ces gens sortent du réel, parce que, d'abord, je répète que l'Ukraine n'est pas au cœur de l'Europe, l'Ukraine est aux confins de l'Europe. L'Ukraine est justement un état frontière entre un monde byzantin, déjà un peu asiatique dans son rapport au pouvoir, qu'est la Russie, qui n'est pas complètement européenne. L'Ukraine est partagée et l'Ukraine est à la frontière de l'Europe, n'est pas au cœur de l'Europe. C'est délirant de dire ça. Et deuxièmement, l'Ukraine n'est même pas membre de l'Union européenne, même pas membre de l'OTAN. On voit que l'idéologie peut provoquer des guerres. Souvenons-nous, au XIXe siècle, Napoléon III, il avait des idées. Voilà, le principe des nationalités, ce n'est pas un mauvais principe. Poussé jusqu'au fanatisme, il a réussi quand même à unifier l'Allemagne et à créer un État extrêmement dangereux pour la France. L'Allemagne unifiée qui s'est retournée contre nous en 14-18. Donc on voit bien que l'idéologie, c'est très dangereux. Quand on quitte le réel, on se cogne contre le réel, comme disait Lacan. Ensuite, le plus important, c'est qu'il y a une asymétrie de motivation qu'on ne maîtrise pas bien. C'est-à-dire pour l'Ukraine, on comprend parfaitement que ces gens défendent leur foyer, leur famille, leur terre. Il y a des gens qui sont complètement attachés à l'indépendance de l'Ukraine. J'ajoute, pour être clair, parce que je ne suis pas du tout poutinophile ni poutinolâtre, qu'il y a des Ukrainiens qui sont russophiles, qui sont russes d'origine, mais qui n'ont pas envie d'être rattachés à la Russie. Et je peux les comprendre d'une certaine façon, qu'ils prennent les armes. Je peux comprendre, mais on doit aussi admettre que pour la Russie, pour les Russes, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, ce n'est pas une affaire comme une autre. C'est une affaire avec énormément d'affect, énormément d'irrationalité. Navalny, le héros. Ah bah très bien, Navalny. Il a déclaré, Navalny, l'Ukraine et la Russie, nous sommes une seule nation. D'accord ? Solzhenitsyn, prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, jamais la Russie ne trahira les millions de Russes qui sont en Ukraine. Donc à un moment, il faut prendre le réel en compte. Allô, il y a la réalité. Voilà, donc je pense que c'est une affaire très dangereuse et qu'il y a une asymétrie d'investissement. D'un côté, il y a un fantasme de bobo et de l'autre côté, il y a des centaines de milliers de morts. C'est pas on ne joue pas dans la même catégorie là.
Le président réunit les chefs du parti à Saint-Denis demain. Pourquoi, selon vous, pour leur dire quoi ?
C'est une bonne question. Je pense qu'il y a au moins trois intentions, on va dire, de la part du président de la République. La première, c'est qu'il faut préparer quand même...
Mais c'est le format Saint-Denis, pardon.
Oui, je vous en prie, il faut l'expliquer.
Mais c'est à l'Élysée.
C'est au format Saint-Denis, mais à l'Élysée, parce que ça avait été fait la première fois à Saint-Denis, dans l'école de la Légion d'honneur. Ouais. Exactement. Et donc, le nom est resté. Puis les technocrates adorent les trucs comme ça. Donc, premièrement, je pense que c'est préparer les partis au débat qui va avoir lieu la semaine prochaine, mardi et mercredi, préparer le débat et peut-être même suivi d'un vote au sujet d'un texte que j'ai lu attentivement, qui est l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. Alors là, je comprends que le président de la République se prenne à l'avance et essaye de convaincre les présidents de parti, parce qu'il va du boulot. Quand on lit ce texte, on tombe des nues. Alors, je ne vais pas tout le lire, mais la sécurité de l'Ukraine, par exemple, fait partie intégrante de la sécurité de l'Europe et de la région euro-atlantique. Donc on est vraiment dans l'illustration parfaite, avec ce texte, de cette fuite en avant idéologique, hors de la réalité. Hors de la réalité encore, on nous explique qu'avec cet accord, on va améliorer la sécurité de la France. Améliorer la sécurité de la France en passant un accord de défense avec un pays qui est en guerre, avec un pays qui est en guerre contre une puissance nucléaire. Et ça va améliorer la sécurité de la France. Non, mais ça se mélange là-haut, je pense. Et l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, on explique aussi qu'on va, bien sûr, aider l'Ukraine, mais qu'un jour, l'Ukraine, les industries de défense de l'Ukraine vont aider la France. Mais là, c'est complètement irrationnel. Et on va donner donc un argent qu'on est obligé d'emprunter à l'Ukraine, et on va donner des armes qu'on n'a même pas pour nos armées. Le tout en s'engageant pour 10 ans. Et pour 10 ans, on va aider l'Ukraine, d'ailleurs, dont ce texte s'est écrit noir sur blanc, à récupérer ses frontières d'avant 2014. Même les Américains n'en sont pas là. Ensuite, dernière chose, on va aider l'Ukraine à intégrer les institutions atlantiques, c'est-à-dire l'OTAN. Donc en fait, il n'y aura plus jamais de paix possible avec la Russie. C'est préparé à huis clos, cette opération. Hein, puisque c'est loin des caméras, justement, puisque le débat à l'Assemblée nationale, c'est un débat public. Là, c'est à huis clos, les chefs de parti. Pourquoi ? Peut-être que le président va en profiter pour montrer des images satellitaires ou de drones de la direction du renseignement militaire, des interceptions de la DGSE ou de nos alliés. Donc, il y a un côté confidentiel. Il va partager des informations. Très bien. Mais il va partager des informations avec qui ? Avec ceux qu'il traitait de troupes de Poutine, c'est-à-dire le Rassemblement national et la France insoumise. Non, mais là aussi, ça se mélange un peu là-haut. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est très gênant. C'est qu'il veut utiliser, c'est la dernière chose, cette histoire d'Ukraine dans une perspective électoraliste, en fait, en faire une affaire pour avoir un effet drapeau, pour rallier les gens, etc. Je pense que ça peut marcher, mais ça ne va pas marcher en sa faveur, à mon avis. Je pense qu'il va vraiment réussir à en faire un enjeu électoral en dressant tous les partis contre lui. Et quand il a dit « la défaite rôde », moi je pense qu'elle rôde surtout à l'Élysée pour les Européennes.
Merci pour votre regard, Guillaume Bigot, sur tout ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine et la France. Marc Menant, changement de sponsor de la Ligue de première division de football en France. Alors, jusque-là, tout va bien. C'est pas très face à l'info. Mais c'est McDonald's qui devrait donc remplacer Uber Eats. On s'ouvrait donc le 21 mars. Et la question que nous, on se pose derrière tout ça, à l'heure des JO, on se demande si cela pose pas question sur l'influence des annonceurs, non pas dans la logique purement sportive, mais sur l'influence de leur image qui concerne un public où les jeunes ont une grande part. Le football.
Alors, c'est le football, mais ça peut se généraliser à tous les sports.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, c'est l'argent, là, j'enfonce une porte ouverte, qui effectivement submerge tous les grands sports et qui, en quelque sorte, fait passer la logique de la structure sportive en tant que telle, avec des clubs, des passionnés, derrière ses intérêts financiers. Aujourd'hui, vous avez des présidents qui achètent des clubs de football, qui deviennent les patrons de ces clubs de football, afin de rayonner, soit pour un plaisir personnel, soit pour servir une image qui est celle de leurs intérêts. Mais la ville concerné n'a plus rien à voir avec cela. Et par conséquent, ceux qui se battent pour un drapeau, les supporters, qui sont en train de s'agiter en disant « Allez l'OM, allez !» Là encore, l'OM, c'est un sponsor français. C'est une compagnie maritime. Mais quand vous criez « Vive le PSG !», c'est le Qatar qui apparaît. Donc, vous voyez, il y a un dysfonctionnement. Or, on sait aujourd'hui l'influence capitale de ces sponsors dans l'esprit des jeunes. Alors, McDonald's, bah oui, c'est un peu gênant. Ça peut donner la frite, c'est sûr. Mais d'un autre côté, il faut regarder.
Non, c'est vrai, ça fait réagir.
Voilà. Et dans le même temps,
parce qu'il y a une sorte d'image, même si.
Il n'y a pas que ça. C'est les informations parfois, elles se conjuguent. Et aujourd'hui, vous aviez Olivia Grégoire, qui est ministre déléguée. Attention, c'est pas un petit ministre. Hein. Ministre délégué chargé des petites, moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Déjà, ça fait une belle carte de visite. Hein. Et donc, Olivia Grégoire attirait l'attention suite à un sondage qui a été mené par Harris Active. 59% des jeunes entre 15 et 24 ans, 59% mangent au moins une fois par semaine dans des fast-food, c'est-à-dire chez McDonald's et ses concurrents, Quick, etc., etc. Je ne vais pas tous les nommer, mais c'est préjudiciable à la santé de ces jeunes. Et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que les fruits et légumes, la plupart ne sont pas capables de faire la différence entre un concombre et une courgette. Alors vous avez bien bon, on n'est pas obligé d'être péquenaud, même dans un pays où les ancêtres l'étaient en majorité. Il n'en reste pas moins que ça pose des questions. Après, 89%, au lieu de manger des fruits et des légumes, 66% mangent pratiquement jamais de fruits et de légumes. Qu'une fois de temps en temps, or on sait l'importance, les campagnes de publicité sont là pour nous le rappeler, c'est indispensable d'avoir ces apports, parce que sinon, eh bien, c'est préjudiciable à notre santé. 89% mangent avant tout des pâtes, du riz, des pommes de terre. Et ça conduit à quoi ? À d'autres enquêtes. Je vais pas me fâcher avec mon ami Mathieu. Je dis mon ami, j'espère que...
Bien sûr.
Ah bon, quand même. Un Français sur deux est en surpoids. Et vous avez chez les jeunes, 18, donc entre 10 ans et 12 ans, 18,9%, soit presque 19%, qui sont en surpoids et presque 3% qui sont en obésité. On n'est pas là pour faire un procès. Simplement, c'est que malheureusement, c'est leur santé, c'est leur dynamisme qui est mis en cause. Or, qui sont les sponsors ? Vous avez donc, là, en l'occurrence, McDonald's. Mais quand vous étendez aux autres sports, le premier sponsor mondial, c'est Red Bull. Red Bull, 63 millions par an de sponsoring. Le deuxième sponsor, c'est Coca-Cola, 60 millions. Et il y a 270 marques de boissons pétillantes qui ne sont pas des boissons alcoolisées, mais qui contiennent beaucoup de sucre, qui sont donc des apports malheureusement déséquilibrants pour la santé de ces jeunes, et ce sont eux qui règnent sur le monde sportif. Ça signifie qu'à chaque seconde, eh bien, quand le jeune se met devant son téléviseur, il reçoit ces images qui l'encouragent à être dans la déviance par rapport à sa santé. Et ça, forcément, ça ne peut qu'interpeller la ministre chargé de toutes les fonctions que je vous ai citées tout à l'heure, mais ça devrait également alerter la ministre de la Santé. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc le sport, c'est théoriquement ce qui doit motiver les enfants, leur permettre de quitter un autre fléau, mis en évidence depuis quelque temps, et le président Macron l'a fait, il avait raison, sur l'utilisation des portables, des tablettes et la télévision où il y a quoi dans les publicités destinées aux jeunes? L'appel à ces consommations de ce sponsoring. Et c'est donc une sorte de déliquescence dans un vivier qui devrait être celui, au contraire, qui propulse la jeunesse, qui leur donne de l'espoir, qui leur donne de désir de connaître une sorte d'émancipation et physique et intellectuelle. Et malheureusement, eh bien voilà à quoi ça aboutit. Alors je ne vous parlerai pas des Jeux Olympiques aujourd'hui, mais quand on regarde les budgets colossaux de ces grandes opérations, on s'aperçoit que là encore, ce sont avant tout les grandes multinationales et celles qui sont négatives pour la santé qui souvent s'imposent.
C'est intéressant parce qu'il y a un paradoxe effectivement avec ces marques et le sport. Bon, nous on aime bien les marques, hein. D'ailleurs. Nous,
mais non, dit, mais c'est
on...
pas.
Non, je peux parler aussi.
Oui, bien sûr.
On sait jamais. La censure.
Non, je vous donne. Non, je vous donne.
Non, mais je veux dire, nous on aime bien les marques parce que on ne vit que de la publicité. Mais je veux dire par là que c'est intéressant de voir comment ces marques-là ont été chassées petit à petit des écrans pubs. Par exemple, les marques comme Coca-Cola sont interdites de faire de la publicité, par exemple le soir ou bien autour d'un programme pour enfants, etc. Ce qui se comprend.
Mais bien évidemment.
Mais voilà, il y a une
éthique. Mais c'est là où il y a une éthique par rapport au sport. Mmh. Regardez, les cigarettes et l'alcool, théoriquement, n'ont plus à apparaître dans le sport. Mmh. Et pour autant, l'ARCOM ne dit rien sur le fait que sur les podiums, on secoue toujours la bouteille de champagne ou dans la dernière étape du Tour de France, on sert du champagne dans le peloton.
On est le pays le plus strict au monde en matière de publicité. Libérez la pub. Par exemple, on est le seul pays au monde où on ne voit personne qui mange ou qui boit devant un écran. Le seul pays au monde. Quel que soit l'écran, un appareil téléphone, un téléphone, un smartphone, un ordinateur, on est très strict, nous, en matière de publicité. Trop strict. Merci en tout cas pour votre regard. Et vive le sport. Charlotte Dornelas, regardons, pendant que je fais mon lancement, les images qui ont choqué. Ces derniers jours, des lycées ont fait la une de l'actualité avec des événements pour le moins effrayants. Quelles sont exactement ces histoires? Qu'est-ce qu'on en sait? Depuis hier, on voulait en parler et on ne comprend pas, Charlotte. Est-ce que c'est le départ de Gabriel Attal qui a tout lâché? C'est très inquiétant.
Alors, Gabriel Attal était ministre quand beaucoup des élèves de l'éducation nationale, au début de leurs vacances, participaient aux émeutes. Donc, malheureusement, c'est ni une accusation, ni un sauvetage. Je pense que le problème est un peu plus profond, on va dire, que la nomination de tel ou tel. Mais là où vous avez raison, c'est que vous avez vous-même fait le lien dans le sommaire entre ces images et les émeutes. Et c'est indiscutablement le lien que tout le monde a fait en voyant les images. C'est l'éternel recommencement de ces jeunes qui font montre d'une violence complètement hallucinante. Il y a eu plusieurs affaires qui se sont ajoutées les unes aux autres ces derniers jours, qui sont de nature un peu différente, mais qui se passent toutes dans ou à proximité des écoles, et en tout cas qui concernent toutes des écoliers scolarisés dans l'éducation nationale. Vous avez le lycée Maurice Ravel, dont on a parlé, qui est dans le 20e arrondissement de Paris, mais qui malheureusement a mis en lumière une histoire qui concerne, à mon avis, beaucoup de professeurs partout en France. C'est en tout cas ce qu'ont dit les recteurs qui manifestaient hier. Alors c'est une altercation entre un proviseur, c'est-à-dire qu'il a demandé à une jeune femme qui était en BTS de retirer son voile pour rentrer dans l'établissement conformément à la loi. Ce n'était pas une initiative du proviseur.
Il demandait simplement
que la règle soit respectée. Et alors vendredi, non seulement cette jeune femme a refusé de le faire, donc elle a été exclue, mais vendredi, des jeunes ont bloqué le lycée en soutien à cette jeune fille. Les cours ont été suspendus pendant toute la journée. Donc on voit, ça dépasse de loin la volonté d'une jeune fille dans l'école. Et il y a eu des menaces de mort en ligne, accompagnées d'accusations d'islamophobie. Et on sait désormais comment ça peut se terminer. On n'est plus dans l'innocence par rapport à ce genre de parcours. La jeune fille a déposé une plainte pour violence sans interruption, sans ITT. Évidemment, elle ne pouvait pas déposer plainte pour autre chose, hein, puisqu'il lui demandait de se conformer à la loi. Et une enquête a été ouverte pour cyberharcèlement à la suite des menaces de mort sur Internet. L'affaire a pris de l'ampleur, parce que Nicole Belloubet, actuelle ministre de l'Éducation nationale, s'est rendue sur place. Elle a fait la déclaration à la fois, on a l'impression, rhétorique, systématique, c'est-à-dire, ce sont des attaques inacceptables. Enfin, à force d'expliquer qu'elles sont inacceptables depuis 20 ans, force est de constater qu'on les accepte, puisqu'on vit désormais avec, c'est quasiment quotidien. C'est pas qu'on les accepte évidemment moralement, mais on les accepte en tout cas dans les faits. On ne change pas suffisamment notre manière de réagir à ces attaques pour qu'elles soient réellement inacceptées.
Apparemment, on n'y arrive pas.
C'est ça, vraiment, on n'y arrive pas très clairement. Alors, il y a des mesures qui ont été prises pour protéger aujourd'hui le proviseur. Et il y a la deuxième affaire ces derniers jours, c'est dans le Val-de-Marne cette fois-ci, le lycée polyvalent de Cachan. Donc, c'est les images qu'on vient de voir. Alors là, c'est des élèves qui ont organisé un blocus initialement pour dénoncer l'état de leur établissement. Ils organisent un blocus et le blocus, nous dit-on, dégénère. J'appelle pas ça un blocus qui dégénère. C'est un blocus qui devient complètement autre chose, c'est-à-dire une espèce d'attaque complètement sauvage, notamment sur le lycée et aux alentours du lycée, notamment par une centaine d'individus cagoulés et armés, dont certains étaient extérieurs au lycée. Donc il n'y a pas de lien direct avec l'état des murs ou des plafonds de cet établissement. Donc il y a des éléments extérieurs. On a quand même des cocktails Molotov qui sont jetés dans l'établissement. Certains qui ont été arrêtés, qui avaient de quoi fabriquer des cocktails Molotov dans leur sac, des poubelles incendiées et des voitures retournées, ce qu'on a vu sur les images, et une voiture de police notamment attaquée, ainsi que des insultes à la police, au pays, à l'établissement, à peu près à qui vous voulez. Et par ailleurs, aujourd'hui dans le lycée, on vit avec la crainte dans les témoignages du retour de ces casseurs dans l'établissement. Et ça, c'est des histoires qu'on a malheureusement déjà vues. Ce n'est pas la première fois ni qu'on voit ces images, ni qu'on voit la crainte exprimée de l'arrivée de ces casseurs. Et il y a d'autres affaires qui ont fait un peu moins de bruit, mais qui quand même ont de quoi nous inquiéter. À proximité de l'établissement Victor Hugo, alors c'est encore à Paris, mais encore une fois, c'est des histoires qu'on a vues dans beaucoup d'autres villes de France. C'est l'établissement Victor Hugo. Bon, à chaque fois, moi, j'entends les noms de ces établissements, ça me fait encore plus mal. Mais donc l'établissement Victor Hugo, dans le 4e arrondissement de Paris, on a un adolescent qui sort à 16h le vendredi de son lycée et qui est littéralement passé à tabac, victime d'une expédition punitive, nous dit-on. Une dizaine d'individus d'un autre lycée qui l'attendent à la sortie, qui le pourchassent. Ils lui tapent dessus, ils le mettent au sol, ils sont 10 contre 1. Et il y en a un qui revient, il le laisse comme ça sur le trottoir. Il y en a un qui revient avec un couteau et un marteau et qui lui donne des coups de marteau sur le crâne, coups de couteau. Alors, il n'est plus en état d'urgence absolue. Enfin, son pronostic vital n'est plus engagé, mais il est quand même parti. Et là, vous avez une source policière qui vous dit une altercation aurait eu lieu plus tôt dans la matinée. Trois adolescents, donc autres adolescents, auraient été blessés à l'arme blanche. Donc, c'est ces fameuses affaires de bandes, de rixes entre lycées, donc la fameuse guerre des territoires qui va jusque dans les lycées et parfois même jusque dans les collèges. Et la multiplication des affrontements entre mineurs a été constatée dans la capitale, mais partout ailleurs. C'est quand même quelque chose qui vient de plus en plus sur la question de la délinquance, notamment de la délinquance violente. Et vous avez l'adjoint à la sécurité du maire du 15e arrondissement qui dit, ouvrez les guillemets, « Cela fait plusieurs jours que nous avons des soucis entre des jeunes de quartiers voisins. » On est au plein cœur de Paris, hein. Des jeunes de quartiers voisins. Et il parle d'un contexte d'alerte rixe extrêmement important. Vous avez les alertes attentats, vous avez désormais les alertes RIX avec pareil des couleurs. Des couleurs selon la gravité de la situation. On a eu une bousculade dans un lycée du 20e arrondissement sur fond de grève qui s'est notamment attaqué à un proviseur qui était non désiré, notamment par l'équipe enseignante. Une cohue et l'intervention des pompiers quand même qui ont dû intervenir. Et la semaine dernière, alors là c'était dans les Yvelines, le retour d'un adolescent de 14 ans. Il a 14 ans, il est expulsé de son lycée en raison de menaces de mort à l'encontre d'une de ses professeurs. Il revient dans le lycée dans lequel il n'a pas le droit d'être. Il revient voir sa prof et la menace de mort en langue arabe, en l'occurrence, c'est lui qui le précise. Et il se rend au commissariat puisqu'ils l'ont cherché dans l'établissement le jour même. Et il est convoqué devant le juge en 3 mois, à 14 ans, 3 mois, c'est loin. C'est loin de l'acte qu'il a commis déjà il y a 9 mois, qui a valu son exclusion et qui ne l'a pas suffisamment, comment dire, intimidé pour qu'il prenne la peine de revenir dans cet établissement.
Au moment des émeutes, c'était très rapide. Ces affaires sont difficilement comparables dans le déroulé des événements, Charlotte Dornelas, mais c'est toujours une violence qui s'invite à l'école et qui inquiète de nombreux professeurs. Et ça, il faut le souligner.
Et c'est nouveau surtout parce qu'on a des professeurs qui regardaient d'un très mauvais œil, en tout cas dans leur expression publique, hein, c'est pas individuel évidemment, mais dans leur expression publique, qui regardaient d'un très mauvais œil la question même de la sécurité aux abords de l'école ou même à l'intérieur de l'école et qui désormais la réclament en permanence. Hier, vous avez 163 chefs d'établissement de Paris intramuros. Ils sont 380 en tout. Vous en avez quand même 163 qui viennent manifester à la suite des menaces de mort proférées au lycée Maurice Ravel et qu'ils disent eux-mêmes que ces altercations, je cite, sont loin d'être exceptionnelles. Donc déjà pour qu'ils se déplacent en aussi grand nombre, c'est quand même rarissime, et qu'ils nous expliquent que c'est loin d'être exceptionnel, ça l'est aussi. On a dans Corse Matin le témoignage d'une jeune femme, une jeune prof, qui a été mutée en banlieue lyonnaise. Voilà, on la voit à l'écran. Elle est mutée en banlieue lyonnaise il y a quelques années. Elle retourne en Corse après, avec une grave dépression en prime, et c'est évidemment ce qui l'a reconduit en Corse. Elle parle, elle, d'une descente aux enfers. Je vais vous la citer, ça va être plus simple. Ouvrez les guillemets. On ne nous prépare pas à recevoir des menaces de mort et des insultes par un élève de 2 mètres, ni à voir des élèves se masturber en cours, ni à en voir un qui essaye d'étrangler son camarade, à retrouver son rétroviseur cassé parce qu'on a dit à l'un d'eux d'enlever sa casquette et à se faire pousser en rentrant dans la classe. Refermez les guillemets, je pense que son témoignage vaut toutes les analyses du monde. Et par ailleurs, cette femme explique qu'elle avait peur de faire cours, elle demande sa mutation, elle est mutée en Seine-Saint-Denis. Bon, c'est le problème aussi des mutations de professeurs qui ont 20 ans, une expérience extrêmement faible et qui se retrouvent dans des banlieues extrêmement difficiles, notamment sur le terrain scolaire. Elle n'y reste qu'une semaine et désormais, elle est retournée en Corse. Elle a passé l'habilitation en langue corse pour pouvoir être sûre de n'être mutée qu'en Corse. Donc vous imaginez par ailleurs le problème. Et dans le même temps, on a une étude qui nous apprend, et alors là tout le monde fait semblant de s'étonner, que depuis 2021, il y a une très forte augmentation du nombre d'élèves inscrits dans le privé. On était à 35% pendant 15 ans, on est passé à 38,6% à la rentrée 2023. Et selon les naissances, on pourrait passer à plus de 50% d'élèves dans quelques années, quand les élèves, les enfants qui naissent aujourd'hui sont arrivés à l'âge du collège. Donc plutôt que de tenter d'affaiblir cette question du privé, peut-être faudrait-il regarder pourquoi les parents, notamment, se ruent sur la question du privé. Il y a évidemment des questions scolaires, mais il y a surtout désormais des questions d'évitement de l'insécurité qui règne dans beaucoup trop d'établissements aujourd'hui.
Et de manque d'autorité. C'est sans cesse une question d'autorité qui revient notamment à l'école. Mais est-ce qu'on arrive simplement à savoir quoi faire devant une telle situation ?
Non, on a du mal, évidemment. Par ailleurs, il est extrêmement tard, donc il n'y a aucune solution miracle. On claquerait des doigts et avec une annonce ou une disposition, on changerait tout. Ça passe, je dis ça sans aucune, sans aucun affaiblissement d'une quelconque annonce, parce que ça passe aussi parfois par des symboles extrêmement forts. Et nous avons, un, à l'égard des mineurs de manière générale, puisque là on parle massivement de mineurs. Un vrai problème de justice. Je disais tout à l'heure, cet élève, il a 14 ans. 14 ans, c'est très jeune. Il se fait virer de son établissement pour avoir menacé de mort sa prof. Donc c'est pris suffisamment au sérieux quand même. Il revient 9 mois après. Il rentre dans l'établissement duquel il a été viré, dans lequel il n'a pas le droit de mettre les pieds. Il retourne menacer sa prof de mort. Il se présente à la police et il est convoqué devant le juge dans 3 mois. Or, vous avez beaucoup de pédopsychiatres, et notamment qui accompagnent des jeunes particulièrement délinquants, notamment Maurice Berger, dont on parle souvent sur ce plateau, qui vous disent, au contraire, à cet âge-là, il faut frapper immédiatement, judiciairement,
entre guillemets,
immédiatement, avec, si possible, des courtes peines, mais immédiates et certaines. Alors là, on voit bien que c'est l'impunité qui règne dans la tête d'un gamin de 14 ans pour qu'il ait ce parcours-là. Donc, il faut de toute urgence adapter les normes par lequel nous rendons la justice à la réalité délinquante des mineurs aujourd'hui. Évidemment, on se dit, on a dans la tête le mineur qu'on connaît qui est tout mignon à côté de nous, et on se dit, non mais on va quand même pas renforcer les sanctions pour lui. Mais le mineur que vous avez tous dans la tête, c'est pas lui qui est concerné par les sanctions, puisque en général, la loi est faite pour ceux qui la transgressent. Enfin, les sanctions qui viennent réaffirmer la loi sont faites pour ceux qui la transgressent. Donc, pour les mineurs qu'on voit sur les images, pour les mineurs de 2 mètres qui poussent la prof quand elle rentre dans l'école. Parce que c'est ça, évidemment, les mineurs délinquants, aujourd'hui, que nous avons en face de nous, ils sont capables d'une violence inouïe, de sortir un couteau et d'aller attaquer un inconnu dans le collège d'à côté. Et la deuxième chose, c'est évidemment réaffirmer l'autorité à l'école comme ailleurs, en cessant de mettre sur un pied d'égalité l'élève et le prof, le délinquant et le policier. Par principe, il n'y a pas de pied d'égalité. Que la justice, dans le cœur d'un tribunal, écoute toutes les parties, c'est normal, de manière générale, dans le débat public. Et ça, c'est un retournement, notamment au cœur de l'école. Et c'est pour ça que je précisais que les professeurs, désormais, sollicitent la sécurité. Mais c'est un vrai retournement, c'est une vraie révolution philosophique pour beaucoup, beaucoup d'entre eux. Donc il est plus que temps, en effet, il y a plus qu'urgence, on va dire, de réagir, oui.
Merci beaucoup Charlotte pour votre enquête, on va dire, hashtag face à l'info, vos réactions sur ces différentes chroniques. On va réécouter Mathilde Panot sur Public Sénat.
Pour le plaisir.
Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain ? Du fleuve Jourdain.
Pourquoi cette question ?
Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir.
Nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU.
Oui. Mais physiquement, géographiquement, vous le situez où, cet État de Palestine ?
Je ne comprends pas votre question. Je m'appuie exactement sur les résolutions de l'ONU.
Voilà. Géographiquement, c'est à l'ouest du Jourdain, du fleuve Jourdain ?
Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire. Donc, non, en fait, je ne vais pas aller vers des choses
où, qui... Vous situez l'État de Palestine
mais sur le droit international, point. Sur le droit international, d'accord. Sur ce qui a été dit sur le droit international.
C'est une scène virale sur les réseaux sociaux. Ce passage où Mathilde Panot a été soumise à une sorte d'interrogatoire par le journaliste Steve Jourdain. Qu'est-ce qui est gênant, en fait, au fond?
Deux ou trois choses. On peut participer. Il n'y a rien de plus agréable que de participer à un lynchage. Nous le savons, la bête humaine est ainsi faite. Donc là, aujourd'hui, tout le monde riait de Mathilde Panot. Et pourquoi se priver du plaisir de rire de quelqu'un, hein?
Mais ça peut arriver à tout le monde, non? Non,
mais j'y arrive justement. Okay, mais ce que je vois, c'est que là, il y a le plaisir de participer à une lapidation. Et chacun, il va, ha ha, Mathilde Panot, tu connais pas ta géographie. Ha ha, oui, Mathilde Panot. Bon, on comprend. Bien franchement, et j'y reviendrai, mais bien franchement, la question posée par le journaliste peut inspirer une réaction légitime, genre, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement? On sait de quoi on parle, on sait où est située la Palestine, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Donc il insiste, et on sent chez Mathilde Panot une perplexité, dire, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je ne comprends pas le sens de votre question. Et très rapidement, on voit que le journaliste, en fait, décide de créer un moment de télévision où il veut jouer, et c'est pour ça que j'arrive à cet élément-là, où il veut jouer un peu le malin, faire le malin. C'est-à-dire...
Il veut jouer le malin.
Non, mais on s'entend. Vous allez voir,
Bon, je me tais.
D'un côté, il y a Mathilde Panot, effectivement.
Combien coûte le petit ticket de métro? Combien coûte la baguette de pain?
Je comprends ce type de questions qui permettent effectivement de mettre en valeur un journaliste qui autrement serait probablement dans l'anonymat. Et ce qu'il cherche à faire dans les circonstances, c'est regardez, moi je connais le dossier et vous ne le connaissez pas. Moi je suis supérieur et vous, vous trébuchez sur une question aussi simple que celle-là. Et on peut croire que Mathilde Panot ne sait pas exactement où est la Palestine par rapport au journaliste. J'entends. Mais on peut croire aussi que devant une question qui, très honnêtement, est quelque peu lunaire, se demande mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement.
On a mis la carte pour Marc Menon.
Oui, c'est plutôt clair. Et là, qu'est-ce qu'on voit à travers cette scène-là, en fait? C'est une volonté de créer un moment de télé artificiel qui met en valeur le journaliste en position de professeur qui reprend le mauvais élève, trop idiot, pour savoir quelque chose d'élémentaire. Mais on peut avoir comme autre hypothèse que Mathilde Panot, tout simplement, n'a pas compris la question parce que c'était une question franchement lunaire. Je sais qu'encore une fois, on connaît des journalistes, des spécialistes de la matinale, je pense à l'un d'entre eux, qui aimait tellement ça, poser des petites questions, hein, de combien a varié le coût de l'essence ces dernières semaines, hein, entre le mois d'avril et le 12 mai, hein? Vous savez pas, vous connaissez pas votre dossier. Et on peut penser que dans ces moments-là, c'est un désir de vedettariat chez un journaliste qui préfère se mettre en valeur dans les événements en créant un malaise plutôt que de poser une question sur le fond des choses.
Moi, je trouve que de temps en temps, ça permet de voir que certains politiques sont déconnectés de la réalité. Bon, je ne veux défendre personne, mais vous êtes en train de défendre Mathilde Panot.
N'exagérons rien, mais un petit peu. Et Dieu sait, je pense que ceux qui m'écoutent de temps en temps savent que je n'ai pas une sympathie exagérée pour Mathilde Panot. J'ai pas l'impression qu'on est chez elle devant la fine fleur de la pensée politique française. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Ce sont des scènes de plus en plus récurrentes, de plus en plus fréquente. C'est ce que j'y reviens, c'est la mise en valeur du journaliste dans le rôle du professeur pinailleur qui n'aime rien tant que reprendre le mauvais élève pour dire « Regardez, c'est moi qui suis supérieur et vous êtes mauvais. » C'est une volonté de créer le buzz, mais un buzz artificiel. Il y a des questions sur lesquelles, effectivement, on peut vérifier la connaissance des politiques. Mais dans les circonstances, vous m'auriez posé la question, j'aurais eu la même réaction que Mathilde Panot pour lui.
Parce que vous ne défendez pas la Palestine, Gaza, etc.
Mais c'est pas la question. Non. J'aurais pas eu l'impression que le journaliste veut m'infliger une leçon de géographie. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Sa question n'est pas aussi. Il ne me demande pas 2 plus 2 égale 4. Il me demande, il y a un autre sens à la question. Je demande à préciser. Et franchement, c'est pour ça que là-dessus, Mathilde Panot me semble un élément secondaire dans cette histoire. La véritable histoire, ce sont les journalistes inquisiteurs, les journalistes professeurs, les journalistes moralisateurs, les journalistes qui se croient toujours plus fins, plus brillant que tout le monde. Et bien franchement, quand je les vois agir ainsi, moi je rêve de politiques suffisamment cultivées, suffisamment instruites. Il se peut que ce ne soit pas le cas de Mme Panot. Mais suffisamment cultivées pour retourner le questionnaire vers les journalistes. Et chaque fois qu'ils nous posent une question, vous savez, on les connaît par cœur. N'êtes-vous pas inquiété de la montée de l'extrême droite? Bon, tout ça. Et bien, vous êtes en droit de poser la question. Qu'entendez-vous par là? Il serait légitime pour des politiques suffisamment construites intellectuellement de jouer au même jeu que les journalistes qu'a fait ce journaliste avec Mme Panot. Donc, il serait légitime pour un politique de retourner la question et de vérifier l'état de la connaissance des différents dossiers par les journalistes qui se croient si malins parce qu'ils ont appris 15 minutes d'avance l'information qu'ils veulent infliger ensuite aux autres sur le mode « je savais, vous ne savez pas ». Je suis persuadé, ça n'arrivera pas souvent, hein. Je crois que fondamentalement, Mme Panot sait à peu près où se trouve la Palestine. C'est pas quelque part en Mongolie, là. Elle a quand même compris à peu près où ça se trouvait. Mais ce que je sais, c'est que tous ces journalistes pinailleurs qui sont tellement fiers d'avoir leur petit moment de télé à sermonner puis à donner l'impression qu'ils connaissent tout, au final, ils ridiculisent leur propre profession et créent un sentiment de révolte légitime chez le politique qui dit « faites votre travail » plutôt que de jouer au petit professeur mesquin.
Donc pour voir, c'est pour vous, c'est pas Mathilde Panot qui a été ridiculisée, c'est le journaliste.
Je sais pas s'il a été ridiculisé, je sais qu'il m'a exaspéré. Quand j'ai vu la scène, je pensais pas me prendre d'affection le temps de quelques minutes pour Mathilde Panot. Et c'est arrivé!
Oui, alors c'est une minute à garder. Gardez bien cette minute, voilà,
mais,
cet édito.
Je ne récidiverai pas.
Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Un bon journaliste sait déjà qu'il ne sait rien. Excellente suite de programme, l'heure des pour deux, avec Pascal Praud.
Ever googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.